صاج قال مسؤوليني ونا مارك رانا منكم هادو عشرين وحنا صابرين
يا تزاير في البيت راه معمر يوم نسمع صوتي خلوني نهضر سلميها انا ما جيتش نكسر نقول الحق ما رانيش نخسر
Bonsoir à tous nos auditeurs, j'espère que vous allez bien, voilà. Donc on commence l'émission Actualité algérienne avec un peu de retard, voilà, il y a eu des problèmes techniques. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, à Razali qui est avec moi.
Voilà. Bonsoir.
Et à Aziz qui est avec moi en ligne, qu'on va prendre. Allô Aziz, tu m'entends ?
Oui, je
veux. Bonsoir. Donc je te laisse commencer Aziz, comme ça tu nous parles un peu.
Vous êtes sur place, vous commencez.
Ah, si tu veux, bien sûr, allez. Allez, allez. Le mot à notre invité Razali.
Donc cette semaine, c'est une semaine assez particulière. D'ailleurs, c'est le thème de notre rassemblement le dimanche 2 octobre 2022 au Vieux-Port, qui va commencer à 16h, il va se terminer à 18h30. Donc le thème de ce rassemblement, c'est de la révolte du 5 octobre à la révolution donc populaire du 22 février, enfin 22 un peu avant. Donc voilà. Donc en fait, on a une révolte et une révolution. On va essayer peut-être... pas de faire une comparaison, mais de discuter la similarité et la différence entre les deux. puisque la révolte du 5 octobre, c'était une révolte soudaine, personne ne s'y attendait. Et idem pour...
5 octobre 88.
5 octobre 88, c'était la nuit le 4 octobre et le matin du 5 octobre, les gens se sont réveillés soudainement avec des écoliers, des étudiants, des chômeurs, qui se révoltaient contre le pouvoir en place, contre la hougra, la cherté de la vie, etc. Et idem pour le 22 février 2019, bien malin celui qui peut nous dire qu'il avait pressenti, quoi. Le 22 février 2019, c'est également une révolution soudaine et ça peut encore arriver. Voilà, ça pourrait être... voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Saïd.
Oui, juste concernant la situation actuelle, comment tu la vois là, actuellement, là, aujourd'hui, voilà.
Au jour d'aujourd'hui, le pouvoir continue à utiliser donc la violence politique, tout répressif. Pour l'instant, malheureusement, avec tout ce qui se passe, au niveau des droits de l'homme, au niveau en Algérie, le pouvoir ne fait pas marche arrière. Et on a eu un événement malheureux le dimanche passé à Paris, puisque les manifestants ont été violentés. Alors qu'ils avaient une autorisation de la préfecture pour se rassembler. Et voilà, donc beaucoup disent qu'il y a derrière donc, tout ce qui s'est passé dimanche passé, le pouvoir algérien et les conditions qu'il a posées. Bon, donc voilà, donc le pouvoir algérien ne fait toujours pas marche arrière par rapport à tout ce qui s'est passé. On a autant de prisonniers, les personnes qui rentrent, qui sortent, généralement, il y a plus de personnes incarcérées que de personnes libérées. Et voilà, ce qui est peut-être un peu visible maintenant, c'est que les gens commencent, peut-être c'est une impression, mais les gens commencent à parler. Et on voit de plus en plus en Algérie des lives de personnes qui critiquent des voilà, donc ça c'est je ne sais pas, est-ce que le pouvoir laisse faire ou bien est-ce que les gens ils sont arrivés à un point où ils n'ont plus rien à perdre, parce que la situation elle est catastrophique sur tous les plans, hein, sur le plan social, politique, etc. Elle est vraiment catastrophique en Algérie actuellement. Il n'y aurait pas d'autre aboutissement que voilà, soit le pouvoir discute avec ces manifestants, soit ça va être une autre explosion. Et j'espère, parce qu'il y a les problèmes sociaux qui se mêlent, et je crains que ça va être différent de ce qui s'est passé précédemment.
Donc tu penses que ça peut aller vers l'aggravation éventuellement de la situation ?
L'aggravation, et je crains qu'il y ait... Je crains, j'espère que je me trompe. Mais je crains qu'il y ait de la violence, parce que là, il y a des problèmes sociaux qui s'ajoutent. Parce que toutes les familles des prisonniers, il n'y a pas que les prisonniers, il y a ceux qui sont sous contrôle judiciaire, qui sont dehors et qui ne peuvent pas travailler, et qui n'ont pas de source de revenus. Toutes ces familles-là vivent dans la pauvreté, la misère la plus totale. Donc il y a une colère très importante qui est en train de gagner beaucoup de familles qui risquent de... Et toutes ces familles-là sont en train actuellement. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos cette semaine, ce qui est un peu différent de ce qu'on voyait précédemment, des vidéos de personnes qui commencent à s'exprimer, à parler, à critiquer, à parler de la dictature, etc. Donc, c'est peut-être... un signe de ce qu'on pourrait avoir, peut-être. Et le problème, c'est que ça peut se faire soudainement, comme ça s'est fait le 22 février, comme ça, également au 5 octobre 88. Donc, on pourrait avoir effectivement, soudainement, une autre explosion populaire. Et là, ça risque, j'espère que... elle sera similaire à celle qui a eu le 22 février 2019.
Voilà. Surtout sans violence, surtout.
Voilà. Surtout sans violence.
Voilà, parce que sans violence. Ça ne mènera nulle part nos concitoyens, enfin les Algériens et surtout voilà, le pays. Voilà. Aziz, qu'est-ce que tu en penses, toi, exactement ?
Oui, Oui, j'abonde dans le, ce qu'on appelle, dans ce que dit Mohamed, c'est que actuellement, la colère est beaucoup plus, le ressentiment et la colère, elles sont là. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont été en prison et ceux qui sont sortis ont vu comment ils sont traités. Hein, on vit comment comment on a instrumentalisé ce qu'on appelle l'appareil judiciaire pour étouffer toute contestation. C'est-à-dire que si on se rappelle de février 2019, février 2019, c'était une réponse à une sorte de ras-le-bol sur le plan, on va dire, de la symbolique. On nous met un grabataire sur un fauteuil comme président de la République, comme candidat à sa cinquième succession président de la République. Naisse d'ailleurs la chanson là, qui inaugure notre, l'émission, décrit très bien, à savoir que c'est comme si, par exemple, voilà, nous avons une certaine dignité en tant qu'Algériens, vous êtes en train de bafouer cette dignité. Je crois que cette affaire de dignité, elle est le propre d'un peuple. Elle n'est pas le propre de ses gouvernants. Hein, elle est propre d'un peuple. Et même l'avenir d'un pays est le propre d'un peuple, quoi. Mais pas de ses gouvernants. Mais toujours est-il que, bon, ils ont demandé, etc. Donc c'est parti sur ce plan-là, avec, bien sûr, avec quand même une intelligence collective qu'il faudra quand même saluer à tout bout de champ, c'est que les Algériens ont ce qu'on appelle ont compris ou bien ont tiré les leçons des années de sang, des années de 90. Ils ne veulent pas que les choses se repassent. C'est pour ça que l'histoire-là de Selmi El-Khawad, Selmi, même de temps en temps, quand on s'entend pas, par exemple, sur une manière de porter la banderole, etc., il tient le couchouille, c'est-à-dire, même si c'est un قال انا ومنجي قال منجي دير لا بوندرول هي وانت دير منا نشبكوا بيناتنا على جا لا بوندرول تيوا اي بي يجي واحد يقول سمية يا خويا سمية سمية تيوا سي تادي سي انكريستي دون لا تيت دي جون سمية بوركو باسكو لي جون اون تيري لي ليسون دي زاني 90 اي جو كرو كو سا نا با ارانجي لي اوتوريتي الجيريان سي سا كي ا في كو ايزون اي لي بوين ليي لي مان ليي بلوتو باسكو c'est pas l'envie de d'écraser une manifestation qui leur manquait, quoi. Ils avaient envie d'écraser cette manifestation au début, mais le problème c'est que je ne sais pas à quel niveau au niveau des chaînes de commandement, que ce soit dans l'armée ou dans la police, les choses ne se sont pas faites parce que il y a eu quelques fuites qui ont eu lieu vis-à-vis de ce qu'on appelle Gaït Salah, qu'on présente, qu'on voit les présents. Il fait quoi ? Il protège le Hirak. C'est pas vrai, il y a eu des fuites. On entend un discours sur le Hirak qui est violent, un discours violent de la part de Gaït Salah. Parce que les camps de Khorafat, quand ils protègent le Hirak, sinon ils disent. Non, mais ils ne protègent pas le Hirak. La preuve, c'est qu'il y a eu des policiers qui sont partis en prison parce qu'ils ont refusé de commander. Tu prends par exemple Toufik Hassani, pourquoi il a été en prison ? Il a été en prison parce qu'il a refusé les ordres de son chef qui lui a dit qu'il faut charger la foule. Il lui dit que je charge la foule de gamins avec leur papa et leur maman, toute la famille. Là, je vais charger la foule. Je n'ai pas en face de moi des hooligans ou des gens armés. J'ai en face de moi des familles. Des familles, c'est pas... Des familles qu'on connaît en plus. Je ne vais pas charger, c'est pour ça qu'il a été en prison, Toufik Hassani, par exemple. Et en plus, si vous vous ramenez très bien, cette Selmiya-là a même conquis les forces de police. Elle a conquis les forces de police. Elle a conquis des policiers. On a vu quand même des vidéos des policiers en train de pleurer, tu vois, à l'intérieur de leur camion. On a vu des policiers, par exemple, accepter volontiers de manger que leur ramène des gens. Hein, parce que vous mettez un tiers de baguette, c'est à deux avec la vache oranaise, هذيك تي ريكتونغلا تاع الفريجيدير تاع الفرماج هذاك بلوس اون بتيت بوتي دو 33 لتر هذوك الصوار تاع إفري هذاك هذا ما كان ما عندهم على 12 ياكلوا غير هذوما لا بوليس هذوك إلا فالو كو دي جون فيان لو رامني دو مونجي سيتي يافي كومام اون سيرتان اون سيرتان جالي با دير كوليزيون اون سيرتان اوسموز افيك لا بوليس سادير كو on défilait tranquillement à agir avec plein de policiers et pourtant il ne se passe rien, ni la police, ni la population. Donc cette 6 milliards était une arme redoutable et ça, ils n'en voulaient pas. Et c'est pour ça que maintenant, on passe peut-être, comme tu dis, elle va peut-être passer à autre chose, c'est que malheureusement, les ingrédients sont là,
c'est ça.
En plus du ressentiment. Tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement et un chef de l'État qui ment. C'est un menteur. Il est balique, qui est dans la télévision, il est bainel, monsieur Bababa. Il est ça. 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 Il est Les détenus d'opinion sont c'est un mensonge du siècle quand un chef de l'État utilise ce genre de choses. Il crée quoi auprès des familles, des gens dans les enfants, dans les maris, dans les pères, etc. Sont en prison non pas parce que ils ont volé ou ils ont insulté, etc. Au contraire, ils ont exprimé une opinion. C'est ça. Quand des familles entendent un chef de l'État parler comme ça, qu'est-ce qu'il crée au niveau de ces familles? Il crée du ressentiment. De la colère, et une colère légitime. Donc si demain, Inch'Allah, notre salat, tout de suite, là, maintenant, la responsabilité est entièrement du côté du pouvoir. C'est elle n'est pas du côté de la population. Parce que la population, elle a quand même 2 ans de manifestations pacifiques, demandant demandant un changement de régime sur le plan civilisationnel, etc. La colère qui est le clit le bled et le raquin. Mais ce qu'on appelle le slogan là n'est pas sorti le 22 tout de suite, il est sorti après qu'ils ont commencé à amener les gens en prison, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'on pensait sur Yahya, sur le plein, sur le plein, etc. C'est vrai, donc Little Bled et Serrachin, c'est un slogan un peu, on va dire, un peu moins dans la séance, mais il répond à une certaine réalité. On arrive au slogan de Hadikta, Mohabarat El Habiyat, Tuskutan Mafel Askaria, la même chose, elle n'est pas sortie le 22 février, ni au mois de mars, il n'est sorti qu'en 2021. Il n'est sorti qu'après ce qu'on appelle les révélations de Walid Naqish sur les tortures qu'il a subies au sein de ce qu'on appelle de Antara, ce qu'on appelle de la caserne de la sécurité militaire, ou du DRS plutôt, du côté de Benakno. Il a avoué devant un juge, quoi. Devant un juge, il a parlé. Donc finalement, la violence physique contre les gens, le discours négateur, le discours nihiliste, le discours qui nie tout, qui dit à rien du tout, crée ce qu'on appelle un ressentiment et une colère. Une colère. Comment va être gérée cette colère-là? C'est toute la question. Et on peut dire, on a cru à l'intelligence collective qui ont tiré les leçons du passé, mais cette fois-ci, Inch'Allah, on croira cette intelligence collective pour dire que la meilleure façon pour qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle de grabuge, il faut que les choses se passent pacifiquement, mais avec de la fermeté, bien entendu, sur le plan des revendications, hein, avec la fermeté, c'est-à-dire que avec la fermeté, bien sûr, parce que avril, mai 2019, ce qu'il défilait. combien de temps qu'on va passer comme ça? Où on va regarder là? C'est-à-dire qu'à demain, c'est des questions qu'on va essayer de, qui vont se poser là maintenant. Voilà. Et je pense que l'intransigeance actuelle du pouvoir, parce qu'il n'a pas de solution de rechange, parce qu'il n'a pas de solution de rechange, il est le sécuritaire, le répressif, rien du tout après. On ne parle même pas maintenant de l'Irak Moubarak ou l'Irak. On ne parle même pas de ça. On parle, c'est fini. Pour eux, l'Irak est fini. Hein? Pour eux, Jezer Jadida Adna, un parlement des jeunes. Quand on a une jeunesse au Parlement algérien, on a une macharia, on a une macharia, et la preuve, c'est qu'on continue encore là, à mobiliser combien de policiers tous les vendredis à Alger, dans les grandes villes du moins. On mobilise les policiers. Et ça se vérifie même au jour d'aujourd'hui, à la place d'A à Alger. Voilà. Et quand tu parles maintenant d'octobre 88, il faut dire qu'on est en train de... Parce qu'il y a eu des morts. On a tué plus de 500 personnes.
C'est ça.
On a utilisé la mitrailleuse lourde. Mais ça a donné un certain nombre de résultats.
Absolument.
C'est-à-dire que le pouvoir de l'époque, au bout de un mois, deux mois, Chadli a ordonné qu'il y ait une constitution... des associations à caractère politique, etc. Quoi qu'on pense des arrière-pensées du pouvoir, des gens du pouvoir à l'époque, mais toujours est-il qu'il y a eu des initiatives prises par le pouvoir de l'époque. Chadli lui-même reconnaît certaines... Et puis il y a eu la création d'associations, il y a eu quand même une période un peu de, qu'on a appelé à l'époque le printemps démocratique. Il y a eu des choses, il y a eu des décisions prises. Mais il y a un an après, ou c'est bientôt, Mekanouadou. À l'époque, pourtant, il y avait un peu de violence quand même. Mais cette fois-ci, Mekanouadou, violence, et Wadou, les propositions, Aklania, etc. Mais Mekanouadou n'a aucune décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir n'a aucune une espèce de ressource. Parce que par exemple, quand on parle de libérer le champ médiatique, s'il libère le champ médiatique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a quelqu'un au sein du pouvoir qui est capable d'affronter, je prends un exemple, d'affronter Karim Tabou ou la Fethi Gharrach, aucun n'est capable d'affronter.
Absolument.
Tellement les faits sont criants, c'est-à-dire les évidences sont là. Hein, les évidences. Est-ce que quelqu'un est capable, est-ce que quelqu'un du pouvoir est capable d'affronter ce Hib de Barré, ou la Mohamed Tajaddit, ou la Brahim Al-Alami, ou la Tlokna? Personne, absolument personne. Pourquoi? Parce que on est au statu quo, un statu quo mortifère, quoi. Et c'est pour ça que donc, le champ médiatique, c'est pas seulement la télévision d'État. Le champ médiatique, il est bloqué partout. À l'époque, au moins, il y avait des journaux qui parlaient, tu vois. Il y avait le Khabar, il y avait le Wata, il y avait etc. Donc,
juste une question. Tu as parlé de libérer le champ médiatique. On peut dire libérer le champ médiatique, mais le problème, c'est que comment il est compris cette libération du champ médiatique? Parce que souvent, on nous parle de politiciens, ou on nous parle de journalistes responsables. C'est-à-dire que pour être dans ce champ médiatique, il faut être quelqu'un de responsable. Ça veut dire quoi, ce responsable?
C'est exactement, c'est résumé dans l'article 87-10 du Code pénal. On pénalise, on criminalise toute action politique. C'est-à-dire, l'action politique en Algérie ne peut être là, n'est la propriété que des gens dans l'institution, c'est-à-dire les parlementaires, les maires, les machins, et encore les maires, mais ils ont fait un filtrage là. Hein. D'ailleurs, il va y avoir des élections le 15 octobre. Là. Il va y avoir des élections, ce qu'on appelle partielles, des mérites quelques tribunaux. C'est comme ça qu'il l'avait dit à l'époque. Il n'y a pas eu d'élection kabylie, quoi. Parce qu'il y a les élections. Donc finalement, pour eux, la parole politique ou la parole sur la société n'est l'apanage que de n'est réservée qu'aux institutionnels. Et là où l'article 87 bis, c'est-à-dire un état, mais un rôle avec citoyen, citoyen mandat, mais aucun avis à donner sur le. Surtout s'il y avait contraire. Mais quand il n'y a pas de problème. Mais quand il n'y a pas de problème, je me suis dit, l'article 87 bis. Deuxièmement, si tu es un journaliste, donc habilité à parler, un journaliste, il y a une certaine place, entre guillemets. Mais à la condition que l'histoire du journaliste de Chorouk est édifiante à l'écoute. Ni plus ni moins. Donc, l'ouverture du champ médiatique, à qui? Aux gens qu'on a toujours vus. Et même, c'est plus restreint encore que les gens qu'on a vus à l'époque, qu'on voyait à l'époque. Certes, les gens n'avaient pas accès à ce qu'on appelle, je me rappelle, on n'avait pas accès à la télévision, les gens n'avaient pas accès, mais les gens sont libres de donner leur point de vue sur la loi, sur le khabar, sur la liberté, sur le soir d'adulte, etc. Mais qu'en ouelou, rien. Mais qu'en ouelou, koulich marlou, ralkou hata, sardarou, la cocotte minute, manat, chaldarou la loi. Mais la cocotte minute, par définition, c'est quoi? C'est que son couvercle, si à un certain moment, tu ne débouches pas pour que ça, le truc, elle va se casser. Elle va, le truc, le couvercle va. La force qu'il y a de l'intérêt, la pression, va se casser. Mais c'est ça le problème. Voilà. Et une cocotte minute qui se casse, c'est quoi? Il ne faut pas être au-dessus, là. Si tu vas la recevoir en plein figure, quoi. Voilà.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai, actuellement, j'ai l'impression qu'avec le. Ça a été en corrélation, le pouvoir a use de la répression et de la violence politique en corrélation avec ce peuple qui maintenant a envie de liberté, a envie de plus de voilà. Donc, et on sait, maintenant on s'oriente vers une situation au niveau sécuritaire. Alarmante, puisqu'on a eu, tu viens de citer très justement donc, le journaliste, et maintenant en Algérie on n'a plus le droit de s'exprimer, le peu de liberté qui existait avant et a pratiquement disparu, hein. Vraiment ça devient une catastrophe, même dans le monde du football, les entraîneurs n'ont pas le droit on se retrouve dans une situation vraiment catastrophique, et finalement je ne sais pas si ça va être ça va être au bénéfice du pouvoir, parce que ça peut se retourner, et actuellement les gens commencent à en avoir marre sur tous les plans, voilà. Donc les gens n'arrivent plus à parler de leurs conditions de vie, n'arrivent plus à critiquer, voilà, parce que les conditions sont dramatiques, hein, en Algérie, hein, malheureusement, hein. On a eu des retours des personnes qui sont parties, qui sont revenues. Ils ont jamais vu autant de pauvreté, autant de souffrance. Autant, on a eu des gens qui sont revenus d'Algérie qui étaient vraiment, vraiment très, 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 très choqués par ce qu'ils ont vu. Voilà, les gens n'arrivent plus. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Les gens touchent 2 millions. Je ne sais pas comment ils arrivent à s'en sortir. Les gens qui touchent maintenant 10 millions par mois, ils se plaignent. Voilà, les gens, moi j'en connais un certain nombre qui touchent 10 millions, ils te disent on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Alors comment ils font ceux qui touchent 2, 3 millions, les fonctionnaires, les... Et je ne parle même pas des prisonniers à qui on a en plus supprimé. Donc, non, je vous jure que Moi, personnellement, j'espère, je souhaite, bien sûr, on est toujours attaché à la Silmia et à l'unité nationale et à toutes ces valeurs qui ont fait le Hirak, mais j'espère qu'on n'aura pas de... Parce que les provocations, ça y va, hein, ils ne s'arrêtent pas, hein, de provoquer.
Tu as parlé des sujets des prisonniers. Ouais. Qu'en est-il actuellement?
On a toujours 326 prisonniers, mais seulement on oublie souvent... Quand on parle uniquement des prisonniers, il y a ceux qui sont dehors et qui sont tout aussi prisonniers, ceux qui sont sous contrôle judiciaire. J'ai vu quelques témoignages. Il y a des gens qui vivent dans des conditions lamentables, qui sont convoqués tous les jours au commissariat et qui ne les laissent pas. Alors, ils leur sortent... Moi j'ai vu, hein, il y a des gens qui sont dehors et puis ils leur sortent une autre accusation. Voilà. Ils les harcèlent de telle manière. Il y en a un, d'ailleurs, j'ai lu, d'ailleurs, Tawfiq Hassani, j'ai lu ce qu'il a écrit. Il m'a dit, il nous harcèle tellement, on n'a plus le temps de chercher à travailler ou de chercher, voilà. Il était policier. Donc la situation, elle est catastrophique. On peut pas s'imaginer comment ils peuvent vivre, ces gens-là. C'est pas possible. Donc, quel sera le résultat de tout ça? Je crains que ça va déboucher vers autre chose que le 22 février.
Et ceux qui étaient en grève de la faim?
Il y a toujours des gens qui sont en grève de la faim. Il y en a qui se sont arrêtés parce que leurs avocats les ont conseillés. Mais il y en a d'autres qui ont repris. Il y a une bonne... Je pense qu'ils sont maintenant autour de 20 qui ont repris le combat des intestins ou la grève de la faim parce qu'ils dénoncent la situation dans laquelle ils vivent dans les prisons, la situation dans laquelle vivent leurs familles, l'article 87 bis du code pénal qui est un article que tout le monde a dénoncé, en Algérie et même à l'extérieur. Voilà, donc il y a des prisonniers qui s'arrêtent et qui parce qu'ils arrivent à un moment au niveau santé, ils n'arrivent plus à assumer. C'est plutôt les avocats qui leur conseillent de s'arrêter. Mais il y en a d'autres qui ont repris, hein, comme Qira, il a repris. Moi, j'ai vu un certain nombre qui ont repris les grèves de la faim. C'est le seul moyen de lutter. Ils n'ont rien d'autre, les pauvres.
Oui. Question pour toi. La grève de la faim, elle a payé par le passé. Mais aujourd'hui, elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire. Parce qu'on a vu trois détenus, je crois qu'ils ont été séparés, et on les a emmenés donc, dans des prisons très, très loin même. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Aziz?
Oui, non, justement, il fallait le dire, effectivement. Parce qu'il y a une grève de la faim qui a été déclenchée du côté de Choléra, là, ouais. Autour des détenus à Mazir, là, qui ont été arrêtés parce qu'ils sont supposés être du MAC. Alors, ils ne sont pas du MAC, du coup. Hein. Même si les gens sont du MAC.
Même s'ils sont du MAC.
Bien sûr. Donc, du coup, on peut ne pas partager ce qu'ils racontent.
Bien sûr.
C'est leurs affaires, après tout. Mais les considérer comme étant des terroristes, bon, c'est faute de café, quoi. Donc, ces gens-là, il y a autour d'une vingtaine de personnes qui ont déclaré la grève de la faim. Au lieu de... Bon, tu avais les mauvaises conditions passées là, mais surtout le fait qu'ils sont en détention provisoire.
Ouais,
un provisoire qui dure 12 mois, 13 mois, 14 mois. Ils ont déclaré pour faire entendre d'eux comme quoi, quand est-ce qu'on doit comparaître? Quand est-ce qu'on va passer devant un juge? Quand est-ce qu'un juge vient nous dire le fond de l'affaire, pourquoi on est là? Vous parlez de 87 bis, dites-nous, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, la réponse a été comme la grève du 28 janvier 2022, hein, la grève de Harrach, on a dispersé les gens. On a envoyé des gens, à Bourges-Barravitch, on a envoyé des gens, le journaliste là, de Liberté a été envoyé du côté de Brouanguillen, etc. On fait la même chose, c'est-à-dire, au lieu d'écouter, leur avocat là, vient de faire une interview en disant que c'est complètement illégal ce qui vient de se, produire la prison de Collières, on n'a pas le droit de déplacer les gens, sauf pour les emmener soit à l'hôpital, soit, soit devant un juge. Ouais. Mais on n'a pas le droit de faire ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de faire tout bonnement en avant. Voilà. Donc le rétrécit est là, il est bien là, il le démontre, il le fait, ils le font sans, sans aucune espèce de la chouma ou la haja. Direct. C'est ce qui est arrivé aux militants de Canada, là,
ouais.
avec le Zarzouenia. Le Zarzouenia a été d'Amarah, là, il est reporté aussi. On vient de le condamner lourdement
à 5 ans.
5 ans de prison.
Et 100 000 dinars d'amende.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, ma lecture dans cette condamnation. Il y a un Canadien.
C'est ça. Absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire comme... Bon, il va pas rentrer au bled pour aller en prison. C'est un peu fou, quoi. Il va pas faire pour aller en prison. Donc, finalement, on l'empêche de fait de rentrer au pays.
C'est ça.
Puisqu'il est sous le coup d'une condamnation, et qu'on redoit l'Algérie, il a l'aéroport.
Ah oui, c'est sûr.
Les exécutants, il y a un mandat d'amener, tu es condamné définitivement par un tribunal, donc tu vas purger ta peine. Donc finalement, donc on vient de lui signifier dire une croix à la bled, dire une croix sur l'Algérie. Ça veut dire quoi? Pour en arriver. C'est vraiment kafkaïen dans cette affaire-là. Et ça se passe dans ce qu'on appelle dans au niveau international. Hein. Ça se passe dans l'indifférence la plus totale, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait des véhicules brûlés ou bien des gens qui meurent sous la mitrailleuse, etc. Là, on va en parler. Et c'est pour ça que c'est important, là, ce qu'on est en train de faire.
Ouais.
Il faut qu'on le continue à le faire. Et les rassemblements du dimanche, c'est important, c'est super important de continuer à parler. Sinon, qui c'est qui va parler? Personne. Voilà.
Absolument.
On a parlé de l'absence de sens. Donc, ça veut dire que ce gouvernement, on ne sait pas où il va. Il ne donne aucun cap aux citoyens. Et il se rajoute une profonde injustice. Et ça, en général, c'est ce qui déclenche donc, sur les bateaux des mutineries. Voilà, des mutineries.
Ouais.
Pour contrôler donc, cette mutinerie, il faut des événements exceptionnels. Ça, on le sait. Et que pensez-vous par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale à côté, enfin, ou je veux dire déjà autour des frontières algériennes, quel serait cet événement exceptionnel? Ou à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez une vision.
Quel événement?
Je ne sais pas, moi, je dis par exemple, quand il y a une mutinerie, il faudrait un événement exceptionnel pour casser cette mutinerie. Cette mutinerie, par exemple, je ne sais pas, une guerre ou le lancement de projets,
Je ne sais pas, il y a une mutinerie qui s'est passée sur un bateau.
Non, pas du tout. Je comparais.
Non, il a essayé.
Je faisais une comparaison. Voilà, j'imagine un peu. Parce que pour une mutinerie, il faut une absence de sens et une injustice profonde. Donc là, on a l'absence de sens donc, du gouvernement qui ne donne aucun cap.
Me suis toujours posé la question suivante. C'est est-ce que ce pouvoir... Ce gouvernement, moi, ça me semble être un peu... J'ai l'impression que c'est un pouvoir, bon, illégitime, etc. Mais ce pouvoir, je me suis toujours posé la question suivante, et je suis partagé. Est-ce qu'il navigue à vue? Ou bien est-ce qu'il a réellement un logiciel sur lequel il fonctionne? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il navigue à vue. On ne parle même pas des problèmes de clans, on sait qu'il y en a tellement et ça se multiplie comme les bactéries maintenant. Il y a plus de clans maintenant qu'avant. Il y a énormément de clans avec beaucoup de luttes des clans. Mais je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce qu'ils naviguent à vue ou est-ce que véritablement ils ont une stratégie dans la répression? J'ai l'impression qu'ils fonctionnent comme cela. Donc actuellement, concomitamment, en parallèle avec les revendications populaires, parce que le peuple commence à... Je suis en train de voir qu'il retrouve un peu plus de liberté. Eh bien, Houma, d'un autre côté... Donc, ils intensifient la répression. Voilà. Moi, j'ai toujours pensé cela, au lieu de penser que vraiment, ils ont un plan précis pour arriver à museler donc, ce peuple algérien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aziz.
Je crois que le naviguer à vue, c'est peut-être... à la limite gentille de ta part de naviguer à vue. Parce que naviguer à vue, en fait, tu évites les dangers, tu essaies d'éviter des dangers.
Ouais.
Tu essaies de prévoir un tout petit peu, parce que c'est ça, le problème de naviguer à vue, c'est que il faut pas qu'il y ait des récifs devant toi, quoi.
Ouais, ouais.
Et si tu vois un récif, tu dévies un peu.
D'accord. Hein?
Mais nous, on est en train de c'est pas de naviguer à vue, on est en train de reculer sans voir ce qui se passe, quoi. On est en train de faire franchement rien, absolument rien du tout. Tout ce qui intéresse, d'ailleurs, bon, il faut qu'on en discute un peu sur cette affaire du sommet arabe. Tout ce qui intéresse ce pouvoir, c'est d'essayer de se donner une légitimité qu'il sait qu'il n'a pas au plus de sa population.
C'est ça.
Bah, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils n'ont pas au sein de la population, ils n'ont pas de légitimité. Donc, l'obtenir par les aspects économiques, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des personnes, tu viens de le dire comme quoi là, c'est une catastrophe. Le même accueil. Le stage de 20 000 dinars à la banque de l'inflation, qui va un contexte économique mondial quand même des plus aléatoires, etc. Donc finalement, même trouver une légitimité par l'économique, c'est-à-dire par améliorer les conditions de vie des personnes, ils n'ont pas les moyens actuels. Ils n'ont plus les moyens. C'est un mot juste. Hein. 1 milliard. 1500 milliards de dollars donc que qu'ils ont englouti en l'espace de 10 ans, de 15 ans, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle de carrelage. Ils auraient fait le carrelage sur la terre entière, il y aura encore du carrelage en plus, quoi. Tellement il y avait d'argent, quoi. Donc du coup, Il n'y a pas les aspects économiques, ils n'ont pas les moyens d'améliorer les choses. Donc, sur le plan interne, ils ne peuvent pas avoir cette légitimité. Ils sont en train d'essayer de la chercher ailleurs. Et de la manière la plus catastrophique. C'est-à-dire que si tu cherches une légitimité à l'international, surtout aux pays des pays occidentaux, Mohamed, tu dois payer le prix, quoi. Ils ne vont pas se donner comme ça une légitimité chez la Malécom. Il faut payer cash cette légitimité. Je crois que la visite de Macron à Alger, c'était une visite qui va révéler des choses bien plus tard, ils n'osent pas dire. Tu montres une photo sur laquelle tu vois Macron d'un côté et de l'autre côté des militaires, et tu montres aussi des militaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un président d'un pays étranger venant parler avec ce qu'on appelle les attributs de souveraineté, c'est-à-dire avec des militaires. C'est pas possible, ça. Officiellement, c'est pas qui vient se voir avec c'est pas Jobar Mendel qui est président de la République. Il ne devrait pas être dans une réunion comme ça. C'est pas Chingereha qui est président de la République. Et pourtant, il y avait un seul. Du côté français, il y avait un militaire et je ne sais pas, quatre civils dans Macron. Et de l'autre côté, il y avait un civil et trois militaires ou quatre militaires. C'est quoi, Voilà.
Oui, on va reparler de la légitimité. On a un auditeur en ligne, donc je le passe en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, Saïd.
Bonsoir.
Bonsoir.
Un auditeur fidèle.
Bonsoir, Inès.
Razali.
Razali, Aziz.
Et aussi Aziz. J'ai écouté Inès longuement turcain. J'ai du mal à vous savoir turcain, mais ça aura l'autre ligne. C'est pour ça qu'on m'a libéré de la ligne. Aziz.
Oui.
Allô?
Oui,
j'ai écouté avec enthousiasme. Je suis écouté de Macan, la répression et tout. Et maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir qui est là, qui a hérité à Macan Karab, à l'intimidation, à la répression, à la colonisation.
Ouais.
Je rappelle qu'en la guerre intérieure du FLN, le FLN Gilbert Meunier. Le FLN, il est tout sauf un parti démocratique. Il n'a ni la culture du débat ni de l'altérité. C'est un mouvement issu du type terroriste et c'est pour cette raison qu'il va diriger en 62 vers un régime autoritaire que nous connaissions. Un exemple, il ne faut pas oublier, une analyse que j'ai faite, il grille le mur de Berlin, mais le FLN grille là, pour plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier que les gens ont les réseaux sociaux, on avance, il ne faut pas oublier qu'ils ont fait trois académies militaires. C'est une France, hérité du système communiste Ertura, et aussi l'académie militaire égyptienne. Et c'est le 5 octobre à nous. Donc pour moi, la révolution du 5 octobre, ça n'a pas été, non. C'est après, le peuple l'a payé pour ça, évidemment. Non, c'était une révolution du palais en 88. Et on pourrait aussi épiloguer un hasard à Fenchtegui. Mais la visite de Macron à Ertmourt, c'est pour ça qu'on a dit tout le temps, les détenus d'opinion, à qui il y a eu à 300 et tout, et bien, je déplore à dire le CMA dernièrement, heureusement, il n'y a pas du monde, il y a eu le rassemblement samedi, les qui sont en train de récupérer la cause qui instrumentalise la question, la cause des détenus à des fins politiciennes, voire politiques. À ce moment-là, je suis en train de me complotiser. Le CMA, dernièrement, je suis derrière le rassemblement, la majorité des 300 détenus d'opinion national match. Je récuse totalement cette fausse allégation. Oui, les prisons, les gens du pouvoir, ils ne sont pas tous du match. Oui, je connaissais comme certains, mais dire sur ça et dire que ce sont des détenus du MAC, pour moi, c'est une instrumentalisation de la cause des détenus. Et c'est grave. Pourquoi je suis content qu'il est détenu, pardon, la grève de la faim, dernièrement, c'est tout ce qu'ils ont comme armes et tout, on peut, mais la grève de la faim, le docteur Fahar, paix à son âme. On a interdit même les médecins de faire des armes. Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté dernièrement sur le terrain. Mais non, c'est bien, il faut qu'il y ait une dégueulasse. Le pouvoir ne va pas se soucier de leur sort, quoi qu'il leur arrive. Nous avons un pouvoir à une affaire dictatoriale. Ourine Harouassi, Amnesty International, Ourine Harouassi, les droits de l'homme, Ourine Harouassi, l'ONU et tout. D'ailleurs, il a fait fi de tout ce qui se passe. Et on dit, non, qu'est-ce qu'il y a pour clore mon débat, mon propos? Eh bien, dernièrement, à la place de la République, et je l'ai dit avant, eh bien, les CRS ont envahi la place de la République en empêchant les gens de faire leur meeting, voire leur rassemblement. Mais parmi les macarons à Algérie, mon collègue, dans quel contexte a été faite la nomination de Mohamed Ba comme responsable de la DGSE? C'est Macron qui dicte la feuille de route. J'ai l'impression que Macron a été mort, d'un temps paternaliste, j'ai l'impression que l'Algérie est considérée comme une province de la France. Voilà d'ailleurs, il n'a pas réussi à voir sa légitimité au sein de l'intérieur, les loups de la Dicarne, même 20%, les présidentielles en décembre 2019, les législatives 2021, et c'est pour ça qu'il a essayé de rechercher ce qui lui manquait, dites-moi, comme légitimité auprès de Macron. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Nires, d'ailleurs, avant, Nires, avec la visite de Macron à Ertmourt, et il ne faut pas oublier que nous avions donné à Macron une déclaration qui n'a même pas été montrée à Ertmourt. Pourquoi? On se regarde par complexe, jamais notre pouvoir, et un jour le pouvoir algérien a dit, oui, il y a le TPI, il ne faut pas prendre ses rêves pour des réalités. Hein. On a le droit de rêver, mais il ne faut pas prendre nos rêves, pour, il ne faut pas que nous prenions nos rêves pour des réalités. C'est un pouvoir ismrimanis. Il va vendre cher sa peau. Il neige la marine. En 1991-92, il neige l'international Ertmourt, à la Ligue des droits de l'homme, à les instances de contrôle et ainsi de suite. Il a fait 3 millions, il a fait 10 millions. Donc, j'en suis sceptique. Parce que, d'ailleurs, Nilassin Lito va se resserrer sur nous, à une carte semaine dernière, le dimanche passé, mes amis de Chérec n'ont pas pu faire leur dialogue d'Ina, leur débat, comme il se passait autrement. Les CRS avaient envahi la place de la République. D'ailleurs, Nilassin, à quelqu'un du Gouvernement Macron, dites-moi, Nilassin, méfiez-vous, Lito va se resserrer sur le Chérec en France. Parce que le pouvoir, il a peur de l'unité, il a peur de l'opposition qui est d'actualité et il a peur de la jeunesse algérienne. Il ne faut pas oublier l'humiliation du peuple algérien. Le peuple algérien a été dépossédé de sa souveraineté à deux reprises. Le 5 juillet 62 et aussi avec l'interruption du processus électoral en 1991-92. Je ne vais pas citer son nom, un leader d'un parti politique, c'est nous, en tant qu'élite, en tant que démocrate, qui avons interrompu le processus électoral en Algérie. Eh bien, assigner à monsieur, vous vous trompez à monsieur, l'analyse, à Khatar, qui n'est pas le cas, l'élite algérienne démocrate, avant, j'écrivais élite avec un majuscule, maintenant je l'écris avec un majuscule. L'élite, vraiment, et que ce soit, elle est impuissante, elle est à la solde du pouvoir. Arrêtez, il y a certains assaguins, tous ceux qui ne soutiennent pas. Tous ceux qui ne soutiennent pas assaguins la cause du Hira, qui est une cause juste et aussi authentique, pour moi, ils font le jeu du pouvoir. Voilà, ce sont les alliés inconditionnels du pouvoir à une Khatkara dictatoriale d'Algérie. Il y a une question là.
Oui,
vous m'excusez, Aziz, vous m'excusez, Saïd.
J'ai une question. Voilà.
Je
vous ai laissé parler, justement, parce que vous voulez savoir exactement ce qu'il en était. J'ai une vision. J'ai peut-être une question. Voilà. Donc, pour l'Algérie, il n'y a pas qu'une vision, mais des visions de l'Algérie. Pourquoi je pose cette question? Parce que est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs groupes séparés sur la place de la République qui a fait que la communauté algérienne, enfin qui devrait être communauté, qui devrait faire a été faible vis-à-vis des autorités Et voilà.
Non, ces derniers temps, on a remarqué quand même, hormis il y a un flottement du Makatkarad à cause du Covid, mais ces derniers temps, on remarque qu'il y a petit à petit quand même, voilà, non, c'est ce qui fait quand même, c'est ce qui nous donne de l'espérance. Hein. Non, il y a un engouement, il y a un étouffement ces derniers temps, les gars, la place de la République. Mais Kini, c'est mes amis qui m'ont rapporté ça, d'ailleurs, je vais y aller sur presque une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, c'est la Kadishina Vnaina, il y a d'autres occupations, mais à Makatkara, mais Nathan Kini, ou Rabbi, non, on essaye quand même. C'est vrai, hein. Il y a de temps en temps, j'ai vu Dina, les gens alentours, soi-disant ceux qui habitaient Dina, s'il y a des Sindinin ou non, c'est trop fort le sang. Mais à mon humble avis, ces derniers temps, eh bien, non.
Je ne parlais pas du sang.
À la place de la République.
Oui, je ne parlais pas du sang parce qu'on a le même souci, enfin, on a eu le même souci à Marseille. Hein. Je parlais de la division au sein des Algériens, c'est-à-dire que sur la place.
Non.
D'accord, donc il n'y a pas de division. Tout le monde est uni.
Au contraire, ce qui s'est passé le dimanche passé, parce que moi j'ai vu après des vidéos, au contraire. Oui. Le dimanche passé, ils ont tous apporté leur soutien à libérant l'Algérie, puisque c'est eux qui ont été, qui ont été pratiquement réprimés injustement, puisqu'ils avaient l'habitude d'aller dans le même endroit, occupant avec la quête, le skate, etc. C'est juste une. Mais tout le monde a apporté son soutien à libérant l'Algérie. Il y a eu beaucoup qui ont pris la parole et qui ont dit, il faut, comme tu viens de dire très justement, il faut impérativement maintenant faire une seule agora, etc. Donc, il y a cet esprit d'unité, même si après, bien sûr, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des visions différentes. Ça, c'est...
Nous avions des tendances différentes. Hein.
C'est ça.
Beaucoup de mes amis, moi, je vous dis, il m'arrive souvent de prendre la parole là-bas. Mmh. Et bien, une fois d'ailleurs, j'étais le dernier, heureusement, à prendre la parole. Et que, voilà, l'hymne national, les gens ils commençaient à entonner l'hymne national. Et bien, il y a un de mes amis, il a été les voir, il leur a dit quand même. Il faut l'hymne national, il faut qu'il soit fédérateur.
C'est ça.
On réserve 5 à 10 minutes pour le faire ensemble à chaque dimanche. Mm. De temps en temps comme ça, il y a des petites différences comme ça, mais ça se réglé. Hein. Ça se réglé, non.
Bien sûr,
quand même. Mm. Non, je vous dis vraiment, ça se passe à merveille à chaque fois.
Mm.
Mais d'après des amis qui m'ont rapporté, et ben des amis qui étaient invités même par une Magharibia, la télévision Magharibia, et ben la semaine passée, et ben vraiment j'ai vu des photos, j'ai vu moi aussi des photos. Hein.
C'est vrai.
Il y a une espèce d'émulation entre nous quand il y a une marche. La parole des derniers temps, c'était chacun, mais on arrivait toujours. Ah non, c'est le petit problème là, c'est on arrivait toujours à les réveiller. Non, je suis là, je peux vous dire que plusieurs dimanches, non. Je vous dis quand même, voilà, ce qui dérange le pouvoir, c'est que, vous savez quand même, l'histoire, elle est là. La Fédération de France du FLN.
Ouais.
Moi, j'ai proposé, même dernièrement, Aziz aussi, je l'ai dit sur votre antenne, j'ai dit, essayons de nous organiser, et pourquoi ne pas faire une université d'été du Chirac. C'est déjà, ça serait une avancée.
Ouais.
Et j'espère, le Chirac, Makatkarad, non, la flamme du Chirac ne va pas être éteinte. Hein.
Non, je pense pas.
Et ceux qui pensent ça comme ça, contrairement à ceux qui pensent ça, pour moi, ce sont des alliés inconditionnels du système, du pouvoir.
Absolument.
Voilà.
Et au contraire, il y a des signes actuellement en Algérie, même au niveau de la diaspora, il y a des signes qui nous permettent de penser que le Hirak reprend. Il y a des signes, on voit pas mal de choses en Algérie aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, j'ai vu des gens marcher dans des vidéos, des gens marcher dans les capitales, à Alger, à Tizi Ouzou, marcher en train de scander les slogans du Hirak. Donc, les gens reprennent de plus en plus.
C'est l'unité,
Absolument.
C'est vraiment, c'est la pierre d'achoppe. C'est ce qui fait mal au pouvoir.
C'est ça.
C'est ce qui fait mal
absolument,
au pouvoir.
Absolument, ça, on est d'accord.
Voilà, oui, voilà. Absolument.
Mais au contraire, Paris, vous savez, Paris, c'est stratégique. Paris, l'Essaba, elle va investir à, parce qu'elle sait, hein, si Paris tombe, ils vont tomber. Paris, c'est...
Merci.
C'est,
ouais. Merci.
Et je pense que c'est bien parti. Même à Paris, les gens, moi j'écoute beaucoup hein, religieusement yani les, ce qui se dit là au niveau des vidéos. Heureusement qu'il y a d'ailleurs les réseaux sociaux, mais ils sont vraiment très, très. Ils ont une conscience politique et une maturité politique qui donne beaucoup d'espoir. Hein.
Moi, et me souviens, c'est vrai ce que vous dites. Hein. Mm-hmm. Je rejoins ce que vous dites. Et bien, avec l'agora, la question. Depuis 2019 quand même, comme vous dites, voilà, on assiste, il y a un éveil de conscience, on
absolument.
Assiste à des conférences, les gens, il y a des amitiés qui sont formées, il y a des gens quand même qui ont une je peux vous dire des fois, c'est on dirait des expositions, des trucs de formation. Hein.
Absolument.
Voilà,
absolument.
chacun ce qu'il apporte là-bas.
C'est, ça me rappelle le Hirak quand il était à son apogée à Alger. Et c'est ce que moi je suis allé une fois à Alger, j'étais vraiment étonné. Donc il y avait des comme vous dites hein, très bien, c'était des agora un peu partout et les gens apprenaient. Voilà, c'était des sortes
de. Ah oui, que ce soit sur la politique, sur l'éducation,
absolument.
Sur l'histoire,
absolument.
Sur la culture et ainsi de suite.
Absolument.
Monsieur, je vais clore mon propos par une chose et vous le savez, Aziz aussi le savait, vous le savez mieux que moi peut-être. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la. On sait pertinemment. Que vraiment, de par l'expérience qu'on a eue au pays avant, il n'y a pas un mouvement politique qui n'est pas infiltré.
Absolument.
Ça, nous le savons.
Ça, c'est sûr.
Nous le savions. Mais on essaie toujours de déjouer, voilà, et éviter des récupérations. Et de toute façon, ça va se savoir tout ça. Ça va se savoir après tout ça.
Ouais.
Voilà. Tous les mouvements étaient infiltrés. Je ne vois pas, moi, un mouvement qui n'a pas été infiltré.
Absolument,
mais on essaye toujours. Moi, ce qui me décourage, ce que je n'aime pas, les gens qui disent là, voilà, tel monsieur, pourquoi il parle en arabe là-bas. Non,
c'est
moi,
ça.
l'essentiel, que voilà, nous arrivons à nous entendre.
Absolument. Absolument.
Peu importe.
Et,
voilà.
Et le pouvoir fait tout pour qu'on ne s'entende pas. Voilà.
Exactement. Ouais. Comment on dit hein? Peu importe la couleur du chat, l'essentiel, c'est la trappe des souris.
Absolument, absolument. Non, vous avez entièrement raison. Et le pouvoir, s'il a fait passer l'article 87 bis du Code pénal, c'est justement pour éviter qu'il y ait ces agora, qu'il y ait ces petits ateliers. Et moi, ça me fait plaisir, hein, vous passez d'un groupe à un autre.
Moi, ça me fait plaisir, monsieur.
Absolument.
Vous avez commencé votre émission avec Aziz en disant, voilà, des gens qui se targuent de dire que le chat... Non! Mais vous savez, le cinquième, des gens, ils se promenaient à Alger avec le portrait de Bouteflika.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Ça y est, hein. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui se disaient, ça y est, le cinquième mandat, il est réglé.
C'est vrai.
Eh bien, qui l'avait empêché? C'est le Hirak.
Absolument.
Qui avait reporté les élections qui devaient se tenir juillet 2019, c'est le Hirak.
Absolument.
Donc, arrête, qui avait récupéré certains slogans que le pouvoir avait délaissé pendant 20 ans, ils instrumentalisaient comme l'hymne national, comme les drapeaux, ainsi
ça,
de suite.
Et
bien, c'est le Chirac.
Absolument.
Voilà. Et il ne faut pas oublier ça. La jeunesse et aussi la présence de la femme. Et pour
absolument.
Moi, la présence de la femme, c'est absolument. Une nouveauté. C'est le credo du Chirac. Et qui dit la femme, c'est le symbole de l'égalité.
Et en plus, je pense ne pas me tromper en disant que, je ne sais pas, vous allez me corriger, c'est la première fois qu'on a, ou la seconde fois qu'on a des femmes prisonnières. On en a maintenant cinq femmes qui sont toujours en prison, femmes en prison.
Oui.
Et voilà, donc moi, je ne sais pas si précédemment on avait quelques détenus, mais je ne pense pas qu'on a eu... Et ça montre ce que vous dites, je rejoins ce que vous êtes en train
monsieur,
de dire.
Monsieur, vous m'excusez si je vraiment... Moi, je déplore là un tract du CMA appelant un rassemblement samedi passé en disant dans son tract que la plupart, les Tarawas sont détenus,
sûr,
on ne sait
sûr,
pas, sont
sûr.
Tous du... Non, Je récuse cette allégation. C'est une allégation mensongère. Et on n'instrumentalise pas la cause des détenus.
Absolument. Non, vous avez, voilà. Raison. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Et en plus, et c'est le pouvoir qui est derrière. Il essaye toujours de briser l'unité nationale, merci. Comme il a fait pour Nerbana Tiraten, comme il continue à le faire.
Merci. Le complotisme. Alors, heureusement, qu'est-ce que je disais ? Voilà. Les thèses complotistes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Heureusement, le père Jamal Ben Smaï, il a laissé son nom dans l'histoire.
C'est ça.
Et bien, comme vous dites, heureusement que son père, est plein de clairvoyance et de lucidité, avait appelé au calme.
Heureusement. Le père a appelé au calme, il y a eu la réaction aussi, ce qu'on oublie peut-être souvent de dire, c'est qu'il y a eu la réaction, que ce soit les régions de Kabyle et les régions non Kabyle, ils se sont tous mobilisés pour aider le... Voilà, donc il y a eu une unité, et même internationale, puisque même ici à l'étranger, il y a eu une mobilisation pour envoyer des médicaments contre les brûlures, etc. Donc il y a eu l'effet inverse que ce que peut-être projetait le pouvoir en place. Voilà.
Non, un mouvement, de toute façon, moi, si vraiment il y a une instance, un mouvement, pour moi, le Chirac devrait... devrait avoir vraiment, avec d'autres organisations, devrait s'inscrire ou avoir, je ne sais pas comment on attribue le prix Nobel de la paix.
C'est ça, voilà. Absolument.
Et je vais vous dire, j'ai discuté avec une femme, une ministre, qui s'est présentée à la magistrature suprême en France en 2007, et elle a dit, je n'ai jamais vu de par le monde un mouvement aussi pacifiste que le Chirac.
Absolument.
Voilà.
D'ailleurs, on a cassé même pas une vitre, il n'y a pas eu de problème avec les policiers, voilà. Il y a eu l'inverse, hein, mais bon, on a eu des personnes qui ont été tabassées.
Il y avait plusieurs agora, moi.
Absolument.
À chaque fois j'arrive, n'importe quel agora, ce n'est pas pour le vanter, sans arrogance, sans prétention. Et bien, tout le monde m'invitait pour prendre la parole.
Vous voyez.
Et des fois, certains médias, certaines télévisions vous refusent ça. Mais quand même, pour moi, tout se fait là-bas. Hein. Heureusement qu'il y a encore ces rencontres-là.
Ah,
comme vous, heureusement aussi qu'il y a la Radio Galère et d'autres voilà, qui diffusent l'information.
Radio Galère continue à... C'est une radio libre, hein, véritablement libre, parce que d'autres, malheureusement, ont fermé la porte.
Non, j'en connais. Vous savez, j'étais invité, ça fait longtemps, à la Radio Gazette.
Je parle de Marseille, bien sûr.
Je connaissais la Radio Gazette. On va dire la longévité et longue vie pour ses auditeurs et auditrices, et aussi à ceux et celles qui l'animent.
Merci beaucoup, Marc, pour ton intervention. Voilà, tu es toujours le bienvenu.
Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end.
Et à vous demain.
Également.
Chini, vos collègues Aziz et vos collègues aussi.
Merci beaucoup. Merci.
Je vous embrasse.
Allez, embrasse. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci.
Et longue vie au Chirac de Paris aussi. Hein. Ne lâchez
avec
pas.
Avec le soutien des Marseillais. Hein.
Ah oui, non, il n'y a pas de problème.
je vous embrasse.
Allez,
merci, au revoir.
Bon courage, merci.
Merci, Razali. Merci à l'auditeur pour son intervention. Je voulais juste... il est actuellement donc 20h02. On va rester exceptionnellement avec vous jusqu'à 20h30. Voilà, donc c'est exceptionnel. Hein, voilà. Donc, tu parlais des prisons, enfin des femmes sont en prison. Effectivement, la femme est en prison parce que, bon, on l'a mis en prison. La femme est en prison quand son mari est en prison. La femme est en prison quand son fils est en prison.
Absolument.
Voilà. Et on va prendre une petite pause. Je vais vous faire écouter donc Samia Diar avec une chanson qui s'appelle Mahgour. Et après, je vous ferai écouter le témoignage d'une maman. Donc, le fils a été donc arrêté, enlevé, on va dire, en 1995, et qui s'appelle Radouli Oulidi Riyad Hay Oulamiyet. Voilà. Donc, je vous laisse donc avec Samia Diar. Et après, je vous reprends. Merci.
D'accord. Thank you.
Donc, je reprends la ligne et comme je vous disais, je vais vous faire écouter la maman de Riyad. Redoulé ou l'aider, hey ou la mérite.
أم رياض زايد في 11 جانفي 74 كان في عمره 21 سنة كيرفدوه من الحومة مع زوج 1995 على 11 تاع النهار كاع الناس كانوا شاهدين ويشوفوا اللي حابط اللي طالع مو هذوك الزوج بعد 15 يوم تلقوهم إلا وليدي هنا يا من تما بديت نحوس دوك يتلقوه ما كاين والو ومن تما وليت نحبط انا وجارتي نحبطوا حتى ل بالي جوستيس تاع اساندي نحبطوا الاربعاء والخميس الاربعاء كنا طامعين زعما نصيبوه يعطونا ان بيرميت كومونيكي كوم كو زعما راه الا راهو في الحبس نروحو نشوفوه مو دو جويي لو 5 لو 25 جويي 95 وبالحد نروحو نشوفو البروكيغور مالوغوزمون يا للاسف ني مع السجناء ني البروكيغور يقولك ديرو دي بلانت بون لي بلانت من هالي داوها حنايا ماشي غير انايا كنا الوف كنا واحد 4 اشهر واحد 3 اشهر وحنا قلنا امبوسيبل قلت كيفاش 4 اشهر ما نصيبش وليدي هادي ما كاش منها نهبل و القدر تاعهم وتاعنا غي فاتت رانا في 27 سنة يحسبها غير لسان في بلادنا لا عدالة ولا حقوق الإنسان مالغري لي بلانت جوج دستركسيون مينيستير دو لا جستيس لي بروكيغور تاع كاع لي بالي جستيس المينيستير دو لا جستيس الحصون انا كونتاكتي ما كاش لي ما بعتنالوش افيك اكوزي دو ريسيبسيون رانا الدوسي تاعنا أو يوزن أكثر من 5 كيلو وللأسف لا خبر وين راحوا هاد الدراري و عام 2006 جبت الدوسي تاع وليدي وتما كانت المفاجأة باللي بعد 13 يوم من التعذيب والمرض وصبا بمرض وتوفي في نفس الزنزانة وين في الكوميساريا سنترال لابوليس معروفين لابوليس تاع جيساتيام أغونديسمون في فيو كوبا ومعروفين مع كاع الناس كاع الحومة تعرفهم الدراري راحوا يشهدوا هما اللي تلقوهم راحوا يشهدوا ويقول لك صح كان معنا رياض داونا منا راني كاتبه قجا كتاب عليه ويا للاسف دقدقت كاع في البيبان كاع دقدقت ما كاين والو نهار اللي جبت الدوسي بعثته حتى لوني ولوني بعثوا لهم عطاو لهم 90 جور باش هاد الحكايه هادي باين نوار سور بلون ومالغري هكداك ما كاين والو قالك ما نعطوكش ان بي في دو ديسباريسيون نعطوك معاينه ما نعطوكش معاينه فقدان وليدك وباين خاطش وريت لهم التيمونياج تاع الولد بصح انا واش راهو في علاش هاد لي جوج دانستركسيون هادو ما يديروا لهم دي بي في ويسمعوا اكوا ساسير يسمعوا لي تيموان واش يديروا يا اخي قبل ما يطلع بروكورور او يحط يدو على المصحف يخافوا شربي يحط يدو على المصحف ويحلف باللي يخدم خدمته الوغ كو واحد في العداله ما يخدم خدمته واش نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل ما زلت واقف على وليدي راني خرجت 43 سنه ودرك راني 71 سنه وماني سامحه فيه يبان حي يعطوني قبرو ميت يعطوني يوريو لي قبرو حي يبينوهم هذه هي السلام عليكم ربي يبين الحق صح
Donc, je vous ai fait écouter un témoignage qui est bon, relativement émouvant. Pour ceux, ce n'est pas la seule donc, qui fait ou qui a fait ce témoignage. Vous en trouverez d'autres. Sur le site La Radio des Sans Voix. Voilà, donc Radio Galère qui vous passe La Radio des Sans Voix. Donc, n'hésitez pas et nous essaierons, parce qu'il ne faut pas oublier ces détenus. Et c'est grâce à des gens qui combattent et à ces femmes qu'aujourd'hui, les actuels détenus ne disparaissent pas pour l'instant. Voilà, c'est un combat de longue haleine.
Absolument.
Voilà.
Et juste ça, ça nous rappelle justement le combat que nous menons actuellement au niveau de la diaspora pour essayer de parler des détenus, de parler des souffrances des détenus, de leurs familles, pour que les choses ne se fassent pas à huis clos, comme ça s'est fait malheureusement précédemment, puisqu'on compte plus de 25 000 disparus. Hein. Disparus, on ne sait plus où ils sont. Voilà, donc il y a eu, vous savez que récemment, il y avait début septembre un rapporteur qui devait venir, le rapporteur spécial donc des Nations Unies sur les libertés d'association et les libertés individuelles et collectives, qui devait venir en Algérie, qui a été encore une fois annulé ou reporté. Vous savez que depuis 2011, c'est la huitième fois que l'Algérie annule et reporte donc une mission pour essayer. Malheureusement, le pouvoir fait cela pour continuer à faire les choses à huis clos. Voilà, les liquidations extrajudiciaires, etc., etc. Et tous ces voilà. Donc, et justement, notre rôle, il est dans ce sens-là. Notre rôle, c'est de faire écho, de parler, de dénoncer, et pour éviter peut-être. Et parce que beaucoup nous disent pourquoi vous êtes à l'étranger. Souvent, ils viennent au vieux port, puisqu'on a, comme on a dit tout à l'heure, des rassemblements tous les dimanches, maintenant de 16h30 à 18h, au vieux port. Ils viennent nous dire pourquoi vous faites ici le Hirak, pourquoi vous ne partez pas en Algérie le faire. Nous, en Algérie, déjà, on ne peut pas le faire. Hein. Et deuxièmement, si on le fait à l'étranger, c'est pour, justement pour dénoncer, pour éviter que les choses se fassent à huis clos. Voilà. Parce que cette impunité du pouvoir qui a justement qui a amené beaucoup, beaucoup de victimes voilà, dans le fils de cette dame qui vient de parler.
Aziz.
Oui, donc des moments comme ça, oui. Tu entends des personnes comme ça qui font des témoignages. Il faut dire que ce qu'on appelle les familles de disparus n'ont jamais baissé les bras depuis les années 90. Hein. Tous les mercredis à midi, ils sont devant ce qu'on appelle la Ligue des droits de l'homme, pas la Ligue, la représentation officielle des droits de l'homme, l'Observatoire des droits de l'homme en Algérie, là, qui se trouve à la place Addis Abeba à Alger, près de la place Addis Abeba à Alger. Là. Donc, tous les. Et pendant le Hirak, elles étaient là, les dames. Là. Elles étaient dans les manifestations, elles étaient là. Et les gens découvrent, tiens, qu'est-ce qu'elles font ces dames-là? Ah oui, elles commencent à leur poser des questions, etc. Donc finalement, ce genre de choses-là, comme tu dis, grâce à ces dames-là, c'est des dames courage que maintenant la notion de disparition commence à prendre un peu moins d'ampleur, quoi. Même si on ne sait pas encore, ben, y a des choses. Ouais. Quand on dit 326 détenus,
absolument.
326 détenus, ce sont les gens qu'on a présentés devant le procureur. Parce qu'il y a des gens qu'on ne présente pas devant le procureur. Il y a des gens qui sont dans les sous-sols des commissariats, etc. Je ne parle pas d'Alger, je parle des autres villes, etc. Mais que l'idée qu'on fait passer à ces gens-là et à leur famille, écoutez, ne parlez pas comme ça, votre artiste là, ou votre mari va sortir de suite. Là. Donc les familles n'en parlent même pas. Pourquoi? Parce que dans l'espoir que peut-être qu'il va être libéré. Parce que quand on parle de 326 détenus, ce sont les détenus déjà présentés devant le procureur à qui il y a eu un mandat de dépôt. Cela, ils ont déjà passé. On ne parle pas des gens qui restent 15 jours, 20 jours, etc., dans les commissariats. Mais heureusement, par ailleurs, que ce qu'on appelle les réseaux sociaux actuellement, voilà. C'est dès qu'il y a quelqu'un de signalé, de suite, l'information circule, et ils sont dans l'obligation de présenter la personne devant un procureur, quoi. Sinon, si vous vous rappelez, il y a encore la jeune fille de Bouira qu'on a sur les banderoles, sur les banderoles. C'est une jeune fille de 24 ans. Voilà. Il faut peut-être dire ce qui s'est passé. C'est une jeune fille de 24 ans. ses parents sont partis à une veillée funèbre. Ouais. Une veillée où il y avait quelqu'un de mort dans le village. La gendarmerie était au courant que la famille n'était pas là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été enlevés de chez elles. Hein? Mis dans un, ce qu'on appelle mis dans un local de gendarmerie pendant une semaine. Vous pensez ce que pensent les gens quand il y a une femme de 24 ans mise à l'isolement on pense n'importe quoi. Hein?
Bien sûr.
Hein? Donc voilà. Donc il a fallu donc un branle-bas de combat et sa photo a circulé partout. Et les gendarmes étaient obligés de la présenter devant le procureur de Bouira, qui lui a signifié un mandat de dépôt pour allégeance pour le terrorisme. Je ne sais pas comment. Il était bon, voilà. Ouais. Voilà. Donc du coup, heureusement que ce genre de choses-là, il faut continuer encore, parce qu'il faut qu'on se batte. Quand moi, dès qu'on croit les gens qui viennent au Vieux-Port, effectivement, on continuera à leur expliquer que si nous, on ne parle pas, qui c'est qui va parler à notre place? C'est sûrement TF1, mais on est encore moins Canard Algérie. C'est nous. Nous, avec nos petits moyens, on continue encore à dire des choses et à continuer pour que relier l'information, pour que on ne laisse pas les choses se faire avec nous, comme l'avait dit Mohamed, quoi. Voilà. Il ne faut pas laisser les choses se faire avec nous. Voilà. Donc, je crois que ce travail-là est un travail indispensable à continuer à faire et à le faire, etc. C'est comme ça qu'on va gagner la bataille, parce que nous ne sommes pas décisifs au niveau européen. La décision, elle est sur place en Algérie. La décision, c'est les citoyens eux-mêmes sur place qui décideront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais quand ces citoyens-là n'ont pas les moyens, n'ont pas encore le pouvoir, les conditions ne sont pas encore réunies pour pouvoir faire quelque chose, parce qu'il faut dire que la police, le pouvoir a mobilisé le maximum de son arsenal répressif pour étouffer tout. C'est quand même assez difficile de mobiliser, hein, parce que quand j'entends des commentateurs dire « Voilà, je m'en vais, je l'ai, etc. »« Il y a Abdel Bintan, Tarakana, je l'ai, ils savent, quand quelqu'un sort de prison, il n'est pas repris dans son boulot. Hein? Ils n'ont pas repris dans son boulot. Si tu te rappelles, Saïd, on a eu le fameux gars de Tlemcen, le pauvre. Il a été arrêté.
Je m'en souviens.
Destruction de biens publics. Qu'est-ce qu'il a fait de destruction? Il a déchiré le portrait de Ben Félix lors du meeting de Ben Félix à Tlemcen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré un portrait. Hein? Il est contre les élections. C'est une opinion.
Et il a payé très cher.
Il a payé pour 6 mois. Oui. Il n'a même pas assisté au décès de
sa maman.
La boule au ventre de ne pas avoir son fils. Elle est morte, il n'est même pas venu. Et quand il a été relâché, il n'a pas été repris dans son boulot. Parce qu'on lui a salé son casier judiciaire. Les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont en train de lutter. Il faut quand même que des gens disent « Allez, mais nos roches, etc. » Et on dit « sur un claquement de doigts, etc. » Il faut des conditions. Les conditions sont très difficiles à réunir. Mais bon, en tous les cas, on reconnaît au peuple algérien ce qu'on appelle le sens de la dignité, le sens aussi d'un jeu quand ils interviennent comme ça, tu me permets de le dire, il y a eu dans notre histoire nationale 3 interventions décisives. La première intervention, c'est les manifestations de décembre 1960, quand De Gaulle est venu en Algérie faire sa tournée des popotes là, pour voir ses troupes dans les djebels et dans les villes. Donc, le peuple est sorti, les manifestations de décembre 1960. C'est là où De Gaulle a bien compris. Parce qu'il a dit auparavant, je vous ai compris. Et ouais. Ce jour-là, il a bien compris. Il a bien compris que les Algériens n'en veulent plus. Et et c'est de là qu'est parti le processus. Il y a des conditions avant, mais c'était décisif les manifestations de décembre 60. Ça, c'était quand même quelque chose d'important. Une deuxième fois où l'intervention des peuples était décisive, c'était en 62. En août 62, quand il a fallu, on a évité de peu la guerre civile, parce que les clans qui voulaient se prendre le pouvoir, bon, maintenant, il y a un clan qui est pris, mais il allait y avoir une guerre. Mmh. Et les gens sont sortis par centaines de milliers pour dire « Sebastien Barakat ». Mmh. C'est-à-dire, on a eu la guerre, Sebastien, ça suffit. Et arrive le février 2019, qu'on a réuni le Hawiya, tu sais. Ahmad dire un président qui n'est même pas encore président, ou ceux qui commentent sont derrière, etc. Il est Khardou avec une certaine, en disant, mais quand je chasse à Boutfilekha, du Bourbéry ou du Boussaïkha. Les gens ont compris en haut. Et voilà. Donc, il faut faire confiance à ce peuple-là. Je crois qu'il saura relever les défis. Et nous, il faut qu'on soit ces porteurs de valises ici. Il faut qu'on porte ces valises-là. Ce qu'on peut faire, il faut qu'on le fasse. Mmh. Il est de notre devoir de le faire sans aucune espèce de je ne sais pas. Voilà. Voilà.
C'est vrai.
Voilà. Donc, nous n'avons cité le nom d'aucune personne détenue, mais on pense très fort à eux. Et le dimanche, comme tu as dit, Razali, de 16h à 18h, vous pouvez venir voir. Il y a leurs photos et il y a leurs noms.
On parlera donc comme il a dit très justement Aziz, il y a les détenus connus, ils sont au nombre de 326, mais il y a des détenus qui sont restés dans l'anonymat pour plusieurs raisons, celles que Aziz a citées. On a d'autres aussi, les familles en fait, ils doivent déclarer, généralement ils déclarent les détenus au CNLD, d'ailleurs que dans la page Facebook a été arrêté aussi. Mais le CNLD, malheureusement, il le dit, beaucoup de familles ont peur des représailles. Donc, je donne le cas de Hakim Debazi, qui est mort en prison, qui avait 55 ans, qui avait 3 enfants. Mais il n'était pas, vous savez qu'il n'était pas dans les fiches du CNLD avant sa mort, parce que la famille a dit qu'ils avaient peur des représailles. Voilà. Donc, Hakim Debazi, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui est mort en prison, qui a été, je pense, arrêté en février, qui est mort en avril, voilà, alors qu'il se plaignait auprès de ses geôliers qu'il avait des douleurs, etc. Rien n'a été fait. Il est mort en prison. Et Hakim Debazi n'était pas du tout dans les fiches, dans la liste du CNLD, voilà, qui malheureusement aussi s'est arrêté, dans les pages se sont arrêtés, il me semble, vers la mi-août à peu près. Voilà. Voilà, donc voilà la situation des libertés, de la démocratie et voilà, en Algérie. Et nous luttons justement pour qu'on fasse entendre la voix de ces opprimés, de ce peuple qui est en souffrance. Voilà. Sinon, un jour, comme on le dit souvent, l'histoire et nos enfants risqueraient de nous reprocher de ne pas avoir porté assistance à ce peuple qui est en danger. Voilà.
Oui, tout à fait. Et il faut se souvenir que rien n'est immuable. Voilà. Il faut juste qu'on gagne, nous, en audace. C'est tout. Enfin, je veux dire, tout, voilà. Il faut gagner en audace, en créativité. Il y a toujours une solution. Voilà. Peut-être qu'elle n'est pas pour demain ou après-demain, mais elle va arriver, cette solution. Merci.
Voilà, j'en profite pour remercier Radio Galère, hein, qui nous donne l'opportunité de parler donc des souffrances de ce peuple. Voilà, donc ça, on tient à le souligner.
Voilà, ben merci Aziz pour tes interventions. Voilà. Merci Razali aussi et également pour tes interventions. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés et pour leur intervention. Bon, nous essaierons la semaine prochaine de commencer à 18h, donc de 18h à 20h, actualité algérienne. Il est actuellement 20h28. Voilà, donc on va vous laisser avec une chanson. Donc on vous remercie pour votre présence et on vous laisse avec une chanson de Idil, voilà, pour finir. Merci. Et elle s'appelle Targit, c'est Faisons un rêve.
Merci,
voilà, je vous dis bonne soirée à tous et à bientôt.
Merci. Allez, au revoir.
Allez, au revoir. Au revoir. J'aime bien.